Chapitre 8. Les fêtes de la Noël se passèrent chez nous dans l'ennui et dans l'appréhension vague de quelques malheurs. Le 31 décembre, au petit déjeuner, Orlov déclara soudain que ses chefs l'expédiaient avec une mission spéciale auprès d'un sénateur en tournée d'inspection dans un district éloigné. « J'ai pas envie d'y aller, oh non, mais quel motif allégué pour rester » conclut-il en feignant le dépit. « Faudra s'exécuter, oh, rien à faire !» À cette nouvelle, les paupières de Zenaïda Fyodorovna se mouillèrent instantanément.
« Il sera long, ce voyage ?» s'enquit-elle.
« Oh, 5 jours environ !»«
En somme, je suis contente. » reprit-elle après un moment de réflexion. « Ce voyage te distraira. Tu auras peut-être une amourette en route, et tu me la compteras au retour. »
À la moindre occasion, la jeune femme laissait entendre à Orlov qu'elle ne le gênait pas, et qu'il pouvait disposer de lui à sa guise. Mais cette sommaire diplomatie, cousue de fil blanc, ne trompait jamais personne. Ce matin-là, il eut pour seul effet de rappeler une fois de plus à Orlov qu'il n'était pas libre. « Oh, je pars ce soir même » annonça-t-il. Et il se mit à lire les journaux. Zinaïda Fyodorovna voulait accompagner Orlov à la gare. Il en dissuada. Il ne partait pas pour l'Amérique, ni pour une durée de 5 années. Il ne serait absent que 5 jours à peine, et peut-être moins. Les adieux se firent vers 8 heures. Il l'enlaça d'un bras et la baisa au front et aux lèvres. « Sois raisonnable, ne t'ennuie pas sans moi, » lui disait-il d'une voix affectueuse, cordiale, qui me toucha, moi aussi. « Dieu te garde !» Elle contemplait avidement le visage de son Georges pour engraver dans sa mémoire les traits chéris. Puis, d'un mouvement gracieux, elle appuya sa tête sur la poitrine de son amant.
« Pardonne-moi nos malentendus, » lui dit-elle en français. « Entre mari et femme, tendrement épris, les disputes sont inévitables. Et moi, je t'aime à la folie. Pense à moi. Télégraphie-moi souvent et longuement. »
Orlov l'embrassa une fois encore et, sans une parole, s'éloigna, quelque peu confus. Au bruit de la porte qu'on fermait à clé, il s'arrêta dans l'escalier, pensif, et jeta un regard derrière lui. À cette minute, le moindre appel venu de notre appartement l'eût décidé sans doute à demeurer. Mais tout y était calme. Il boutonna son pardessus et se remit à descendre les marches d'un pas indécis. Devant le perron, 2 fiacres attendaient. Orlov monta dans l'une des voitures et moi avec 2 valises dans l'autre. Le froid était vif. Au carrefour, des braseros brûlaient et fumaient. Le vent, que la rapidité de notre course rendait plus glacial, me coupait le visage et les mains. J'étais essoufflé. Je baissais les paupières et je m'abandonnais à mes réflexions. Quelle créature admirable, comme elle aimait! Aujourd'hui, on ramasse partout les objets les plus inutiles pour les vendre au profit des pauvres. Le verre cassé lui-même a une valeur marchande. Mais une chose aussi précieuse, aussi rare que l'amour d'une femme jeune, élégante, intelligente et honnête, on la jette au rebut. Un moraliste ancien envisageait toute mauvaise passion comme une force qu'avec du savoir-faire on pouvait diriger vers le bien. Chez nous, qu'une passion généreuse et belle surgisse, et bientôt elle s'use, impuissante, incomprise, galvaudée. Et pourquoi en est-il ainsi? Les 2 fiacres s'arrêtèrent. J'ouvris les yeux, nous étions dans la rue Serievskaya devant l'hôtel de Pekarski. Orlov quitta sa voiture et pénétra dans l'hôtel. Quelques minutes après, un valet de Pekarski, nu-tête, parut à la porte et me cria, furieux d'être exposé au froid.
T'es donc sourd, on t'appelle. Paye les cochers et monte.
N'y comprenant rien, je montai au second étage. J'étais déjà venu chez Pekarski, c'est-à-dire que, du vestibule, j'avais entrevu son grand salon, lequel, surtout au sortir de l'atmosphère morne et humide qui remplissait la rue, me frappait toujours par l'éclat des cadres dorés, des bronzes et des meubles précieux. Et maintenant, au milieu de cette splendeur, j'apercevais Grousine, Koukouchkine, puis Orlov. « Écoute, Stéphane, me dit celui-ci en s'avançant vers moi, j'habiterai ici jusqu'à vendredi ou samedi. S'il y a des lettres ou des télégrammes, tu me les apporteras. Tu diras naturellement à madame que je suis parti et que je lui envoie le bonjour. Bon, tu peux te retirer. » Chez nous, je trouvais Zinaïda Pelodovna au salon, allongée sur un sofa et mangeant un fruit. Une seule bougie l'éclairait. « Vous êtes arrivé à temps pour le train ?» me dit-elle. « Oui, madame, monsieur envoie le bonjour à madame. » Je m'enfus dans ma chambre et je m'étendis sur mon lit. Je n'avais rien à faire. Je ne m'étonnais pas. Je ne m'indignais pas, mais je m'évertuais seulement à comprendre pourquoi et dans quelle intention il avait eu recours à cette supercherie. Il n'y a que les blancs-becs pour abuser ainsi leur maîtresse. Comment lui, un homme qui lisait, qui raisonnait, comment n'avait-il pas trouvé mieux? J'avoue que je n'avais pas une médiocre opinion de son esprit. Je pensais que s'il avait eu besoin de tromper son ministre ou quelque autre puissant personnage, il aurait déployé beaucoup d'énergie et d'habileté. Mais ici, pour abuser d'une femme, le premier moyen qui lui était venu à l'esprit avait été jugé suffisant. Si la supercherie lui réussissait, tant mieux. Sinon, bon, il n'y aurait pas grand mal. Il serait facile d'inventer un autre mensonge aussi prompt et simple que le premier, sans se casser la tête à imaginer des prétextes. À minuit, lorsque, dans l'appartement au-dessus du nôtre, on se mit à remuer les chaises et à crier « Hurrah !» pour saluer la nouvelle année, Zenaïa Fedorovna me sonna de la chambre contiguë au cabinet. Lasse d'avoir veillé si longtemps, elle écrivait à son bureau quelques lignes sur un bout de papier. « Voici une dépêche, me dit-elle. Prenez une voiture et courez vite l'expédier. » Dehors, je lus ce qu'il y avait sur le bout de papier. « Je te souhaite une bonne et heureuse année. Télégraphie-moi vite, je m'ennuie beaucoup. Il y a une éternité que tu n'es plus là. Je regrette qu'il soit impossible de t'adresser par télégraphe 1000 baisers et mon cœur même. Sois heureux, toi, ma seule espérance. Zina. » J'expédiais le télégramme. Le lendemain matin, j'en remis le reçu à Zinaïda Fyodorovna. Chapitre 9. Le pire était qu'Orlov, étourdiment, avait initié Pauline au secret de son départ simulé, en lui ordonnant d'apporter du linge rue Serievskaya. Dès ce moment, Pauline regarda Zinaïda Fedorovna avec un méchant plaisir et avec une haine que je ne parvais point à deviner la raison. Dans sa chambre et dans le vestibule, elle ne cessait pas de manifester sa joie par des éclats de rire. « T'es resté chez nous trop longtemps, tu vas être obligé de filer !» s'écriait-elle avec transport. « T'aurais dû t'en apercevoir toi-même !» Son flair lui révélait que Zinaïda Fyodorovna ne devait plus demeurer longtemps chez l'Orlov. Et sans perdre une minute, elle volait à la jeune femme ses flacons, ses épingles d'écaille, ses mouchoirs, ses bottines. Le lendemain du jour de l'an, Zinaïda Fyodorovna m'appela et me dit à mi-voix qu'elle ne retrouvait plus sa robe noire. Puis elle se mit à marcher dans l'appartement, pâle, effrayée, indignée,
en se parlant à elle-même. Mais c'est trop fort, mais c'est trop fort, mais c'est une audace inouïe. Au dîner, elle voulut se verser du potage, mais ne le put. Ses mains tremblaient, ses lèvres frémissaient. Et brusquement, n'y tenant plus, elle regarda Pauline. « Allez-vous-en, Pauline, déclara-t-elle. Stéphane suffira. Cela ne fait rien, madame, je peux rester. Non, 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 c'est inutile, vous n'avez rien à faire ici. Allez-vous-en, continua Zenaïda Fiodorovna, qui se leva très agitée. Vous pouvez chercher une autre place. Allez-vous-en tout de suite. Mais je ne peux pas m'en aller sans un ordre de monsieur. C'est monsieur qui m'a engagé. Ce que monsieur commandera sera fait. C'est moi qui vous le commande. C'est moi qui suis la maîtresse de cette maison, dit Zenaïda Fiodorovna, devenant toute rouge. Il est possible que vous soyez la maîtresse de la maison, mais monsieur seul peut me renvoyer parce que c'est monsieur qui m'a engagé. Mais vous ne resterez pas ici une minute de plus, cria Zenaïda Fiodorovna en frappant son assiette avec son couteau. Vous êtes une voleuse, vous entendez? Zenaïda Fiodorovna jeta sa serviette sur la table et la figure pitoyable et douloureuse, elle quitta rapidement la salle à manger. Pauline, en sanglotant tout haut et en marmottant, sortit pareillement. Le potage et les grives refroidissaient. Et je ne sais pourquoi, tout ce luxe de restaurant m'apparaissait maintenant mesquin, chiche, faux comme cette voleuse de Pauline. C'étaient les deux petits pâtés dans leur assiette qui avaient l'aspect le plus misérable. « Aujourd'hui, on nous remportera au restaurant, semblait-il dire, et demain, on va nous servir à quelque fonctionnaire ou peut-être à une cantatrice fameuse. « Pensez-vous, quelle grande dame !» entendais-je Pauline bougonner de sa chambre. « Mais si j'avais voulu, je serais depuis longtemps, moi, une dame comme ça. Seulement, moi, j'aurais honte. Nous verrons laquelle de nous deux filera d'ici la première. Oui, oui, nous le verrons. » Zinaïda Fiodorovna me sonna. Elle était assise dans un coin de sa chambre avec un air d'écolière en pénitence. « Il n'y a pas de télégramme ? » fit-elle. « Ah non, madame. » « Descendez chez le portier, peut-être y en a-t-il l'un en bas. Et puis, ne bougez pas de la maison, ajouta-t-elle, comme je me retirais. J'ai peur de rester seule. » Ensuite, je dus, presque d'heure en heure, aller m'enquérir auprès du portier, s'il n'y avait pas une dépêche. Quelle période douloureuse nous avons alors traversée. Zenaïda Fiodorovna, pour ne pas subir la présence de Pauline, prenait le thé et ses repas dans sa chambre où, presque toute la journée, elle demeurait blottie sur un étroit canapé en forme de C. Elle faisait son lit elle-même. Au début, c'était moi qu'elle chargeait de porter ses dépêches au télégraphe. Puis, ne recevant pas de réponse, elle n'eut plus confiance en moi et les expédia elle-même. Je finis moi aussi par guetter avec impatience l'arrivée d'un télégramme. J'espérais qu'Orlov inventerait quelques mensonges, qu'il s'arrangerait par exemple pour faire adresser à Zinaïda Fedorovna une dépêche de quelque gare. Même si les cartes l'absorbent complètement, pensais-je, ou s'il est occupé à courtiser une autre femme, il y a là cependant Grouzine et Koulouchkine pour nous rappeler à lui. Mais nous guettions vainement. Chaque jour, à plusieurs reprises, j'entrais chez Zenaïda Fiodorovna, bien décidé à lui découvrir toute la vérité. Mais elle me regardait avec des yeux de biche, baissait la tête, remuait les lèvres, et je me retirais sans avoir prononcé un mot. La compassion m'enlevait tout courage. Pauline, comme si de rien n'était, heureuse, faisait le cabinet d'Orloff. Sa chambre,
fouillait dans les armoires, secouait bruyamment quelques vaisselles et tout sautait ou fredonnait chaque fois qu'elle passait devant la chambre de Zinaïda Fedorovna. Cela lui faisait plaisir que l'on se confinât ainsi à cause d'elle. Le soir, elle sortait pour ne revenir que vers les 2 ou 3 heures du matin. J'étais obligé de lui ouvrir et d'essuyer ses récriminations au sujet de ma toux. Aussitôt après son coup de sonnette, un autre appel tintait. Je courais vers la chambre contiguë au cabinet d'Orlov. Zinaïda Fyodorovna, la tête dans l'entrebâillement de la porte, me jetait cette question. « Qui a sonné ?» Et elle regardait mes mains pour voir si elle ne tenait pas un télégramme. Lorsque, enfin, le samedi, on sonna en bas et que dans l'escalier s'entendit la voix si connue, Zinaïda Fyodorovna eut une telle joie qu'elle éclata en sanglots. Elle courut à la rencontre d'Orlov, l'entoura de ses bras, se mit à lui baiser la poitrine, les manches de son pardessus, en bredouillant des mots inarticulés. Le portier monta les valises. La voix gaie de Pauline retentit. On eût dit vraiment qu'un être cher venait passer les vacances dans sa famille. « Mais pourquoi m'as-tu pas télégraphié une seule fois ?» répétait la jeune femme en suffoquant de bonheur. « Pourquoi ? Mais si tu savais dans quelle torture j'ai vécu tous ces temps-ci ! Oh, mon Dieu !»« Bon, mais c'est bien simple. Le sénateur et moi, nous avions dû nous rendre à Moscou presque aussitôt. » « Je ne recevais pas tes dépêches, » répondit Orlov. « Ce soir, après dîner, je te raconterai mon voyage en détail. À présent, je tombe de sommeil. Ah, ces trajets interminables en wagon. Dormir, dormir, dormir !» Il était visible qu'il n'avait pu dormir de la nuit, l'ayant sans doute employé à jouer, peut-être à boire. Zinaïda Fyodorovna le mit au lit, et jusqu'au soir, nous marchâmes tous sur la pointe des pieds. Le dîner se passa fort bien, mais tout de suite après, au café qui fut servi dans le cabinet, on causa. Zinaïda Fyodorovna parlait à mi-voix, rapidement, en français. Sa voix imitait le murmure d'un ruisseau. Puis un gros soupir d'Orlov qui répondait aussi en français. « Mon Dieu, mais n'auriez-vous point de nouvelles plus fraîches que cette sempiternelle et fastidieuse litanie sur la malfaisante femme de chambre ?»« Mais mon chéri, elle m'a volé. Elle m'a lancé des grossièretés. Mais pourquoi ne me vole-t-elle pas à moi ? Pourquoi ne me lance-t-elle pas de grossièretés à moi ? Pourquoi est-ce que moi, je ne doute jamais de leur existence ?» aux femmes de chambre, aux valets de chambre, aux concierges. Ma chère, vous avez des caprices, et vous manquez de caractère. Oh, je soupçonne même que vous devez être enceinte. Quand je vous ai proposé de la remercier, vous avez exigé qu'elle restât. Maintenant, c'est vous qui exigez son renvoi. Eh bien, dans ces cas-là, je suis moi aussi un entêté. À des caprices, je réponds par des caprices. Vous voulez qu'elle s'en aille? Eh bien, moi, je veux qu'elle reste. C'est le seul moyen de guérir vos nerfs. C'est bien, dit craintivement Zinaïda Fyodorovna. Ne parlons plus de cela. Et à présent, donne-moi des nouvelles de Moscou. Le lendemain, c'était le 7 janvier, la Saint-Jean-Baptiste, Orlov, après le déjeuner, mit son habit noir et sa décoration pour aller chez son père lui souhaiter sa fête. Il ne devait partir qu'à 2 heures et il n'était qu'1h30 quand il eut fini de s'habiller. À quoi employer cette demi-heure? Orlov se promenait dans le salon en récitant les poésies de circonstances que jadis il débitait à ses pères et mères le jour de leur fête. Zinaïda Fyodorovna, qui se préparait à sortir aussi pour se rendre chez sa modiste ou dans les magasins, était là et elle écoutait, souriante, Orlov qui déclamait. J'ignore comment avait débuté leur entretien, mais quand j'apportais à Orlov ses gants, il se tenait devant Zéraïda Fédorovna et d'une voix agacée et suppliante lui disait « Au nom de Dieu, au nom de tout ce qui est sacré, ne rabâchez donc pas des choses que tous et chacun savent depuis longtemps. Oh, quelle malheureuse tendance ont nos femmes intelligentes et pensantes à proférer avec un air profond et une animation enragée des sentences dont les potaches même sont excédées. Ah, si vous consentiez à biffer de votre programme conjugal ces graves questions, quelles obligations je vous aurais ?
J'entends. Nous autres femmes, nous ne pouvons pas avoir des opinions à nous.
Mais si, mais si, je vous donne pleine liberté, ma chère. Soyez une radicale, citez les auteurs qu'il vous plaira, mais faites-moi cette concession de ne jamais aborder en ma présence l'un ou l'autre de ces deux sujets, la corruption du grand monde et l'anomalie du mariage. Comprenez donc enfin que l'on dénigre le grand monde pour l'opposer à cet autre monde où vivent les marchands, les peuples, les petits bourgeois et les moudjiks. Ces deux mondes me sont d'ailleurs également odieux, mais si l'on me proposait de faire loyalement un choix entre l'un et l'autre, je choisirais sans hésiter le grand, et ce ne serait point de la pose, car c'est vers celui-ci que tous mes goûts inclinent. Il est futile et banal, le monde auquel nous appartenons, vous et moi. Mais du moins, nous savons nous exprimer à peu près correctement en français. Nous lisons un peu, et au plus fort de nos disputes, nous n'échangeons que des paroles plus ou moins vives. Tandis que dans le petit monde des idoles et des Nikitas, où règne la débauche, l'ivrognerie et un paganisme grossier, c'est le point qui règle les différends.
Mais le marchand et le moujik vous nourrissent.
Ils me nourrissent, et bien après. Si c'est déshonorant pour moi, ce n'est pas moins déshonorant pour eux. Ils me nourrissent et ils m'ôtent leur chapeau. C'est donc qu'ils n'ont pas assez d'intelligence et de loyauté pour agir autrement. Dirais-je de loup ni de blâme personne. Je prétends seulement que le grand monde et l'autre se valent. Mon esprit et mon cœur s'insurgent contre les deux, mais pourtant mes goûts sont acquis à celui-là. Voilà pour la première question. Et maintenant, quant au mariage, qui vous fait l'effet d'une anomalie, continua Orlov en consultant sa montre, vous devriez bien vous pénétrer de ceci. Non, le mariage n'est pas une anomalie. Ce qui est vrai, c'est que vos exigences sont ici plutôt vagues. Que recherchez-vous dans le mariage ? Au fond, dans les unions légales ou libres, dans toutes unions, enfin, bonnes ou mauvaises, l'essentiel, c'est toujours la chose. Vous autres femmes, vous vivez que pour cette chose-là, qui est tout pour vous et sans laquelle votre existence vous semblerait dépourvue de sens. Vous n'avez besoin de rien en dehors de cela. Et c'est cela que vous recherchez avant tout. Mais depuis que vous lisez les romans modernes, vous vous trouvez comme un goût de honte à cela. Et c'est pourquoi vous vous démenez de ci, de là, changeant d'hommes à l'aveuglette et criant à l'anomalie du mariage pour justifier votre agitation. Si vous ne pouvez ni ne voulez renoncer à cela, qui d'ailleurs est votre principal ennemi, votre Satan, que vous continuez à servir comme des esclaves, qui feront les conversations les plus graves. Quoi que vous prétendiez, ce ne serait que phrase et pose. Je vous en croirai jamais. Je sortis pour commander une voiture. Quand je revins, ils étaient en pleine dispute. Comme disent les marins, la brise avait fraîchi.
« Oh, je vois que vous voulez aujourd'hui m'étonner par votre cynisme !» déclarait Zenaïda Fiodorovna, qui se promenait dans le salon en proie à une vive émotion. « Vos propos me dégoûtent. Je suis pure devant Dieu et devant les hommes. Je n'ai pas à me repentir de quoi que ce soit. Oui, j'ai laissé mon mari. Oui, je suis venu vivre avec vous. J'en suis fier. Je vous jure sur mon honneur que j'en suis fier.
Eh bien, c'est parfait alors.
Mais si vous étiez un homme droit et honnête, vous aussi vous seriez fier de mon acte, qui nous élève tous les deux au-dessus de milliers de gens. Combien de femmes, combien d'hommes suivraient mon exemple si la pusillanimité ou des calculs mesquins ne les empêchaient? Seulement voilà, vous n'êtes pas un honnête homme. Vous redoutez la liberté, vous raillez les élans du cœur dans la peur qu'un imbécile ne vous considère comme un homme loyal. Vous craignez de me montrer à vos relations. Il n'est pire tourment pour vous que de sortir avec moi, de vous montrer vous-même dans la rue en ma compagnie. Ce n'est pas vrai, peut-être? Osez dire que ce n'est pas vrai. Pourquoi ne m'avez-vous pas encore présenté à votre père et à votre cousine? Pourquoi? Oh non, j'en ai assez à la fin de tout cela, s'écria Zinaïda Fedorovna en tapant du pied. Je réclame ce à quoi j'ai droit. Vous allez me présenter à votre père.
Bon, si vous avez besoin de mon père, allez vous présenter à lui vous-même. Il reçoit de 10h à 10h30 du matin.
Comme vous êtes ignoble, dit Zeralda Fialovna en se tordant les mains. Sans doute vous n'êtes pas sincère en ce moment. Vous dites là des choses que vous ne pensez pas. Mais vous méritez que l'on vous exècre pour la seule cruauté de vos propos. Oh, mais quel homme ignoble vous êtes!
Nous causons à l'infini, sans toucher au point capital. Et le point capital, c'est que vous vous êtes trompé et que vous ne voulez pas le reconnaître. Vous vous étiez imaginé que j'étais un héros imbu de je ne sais quel idéal extraordinaire. Ben, il s'est trouvé en réalité que j'étais simplement un fonctionnaire fort banal, un amateur de cartes et que je n'avais aucune vocation pour les idées. Je ne suis qu'un rejeton parfaitement adéquat de ce monde corrompu que vous avez fui, révolté par sa vanité et sa banalité. Avouez-le donc et soyez juste. Ne vous en prenez pas à moi, mais à vous-même, car ce n'est pas moi qui vous ai trompé. C'est vous qui vous êtes trompé.
Oui, je me suis trompé, je l'avoue.
À la bonne heure, Dieu soit loué, nous touchons enfin à l'essentiel. À présent, écoutez-moi, s'il vous plaît. Me hausser jusqu'à vous, je ne le puis, étant par trop perverti. Vous abaisser jusqu'à moi, vous ne le pouvez, étant par trop sublime. Reste... par conséquent, une chose à faire.
Quoi ?
Demanda vivement Zinaïda Fedorovna en retenant son haleine et devenue tout à coup pâle comme une feuille de papier. Bien, il nous reste la ressource d'invoquer la logique.
Georges, pourquoi me déchirer de la sorte ?
Dit en russe Zinaïda Fedorovna d'une voix fêlée.
Pourquoi ? Mais comprenez ce que je souffre.
Orloff, que les larmes épouvantaient, se sauva dans son cabinet. Voulait-il lui faire encore plus de mal? Ou s'était-il rappelé qu'on en usait ainsi dans les cas analogues? Toujours est-il qu'il ferma la porte à clé sur lui. Elle jeta un cri et courut à sa poursuite dans un froufrou de jupe.
« Qu'est-ce que cela signifie encore ? » s'écria-t-elle en frappant à la porte. « Qu'est-ce que cela veut dire ? »
répéta-t-elle d'une voix que l'indignation entrecoupait.
« Ah, oh, c'est ainsi que vous agissez. Bien, sachez donc que je vous hais et que je vous méprise et que tout est fini entre nous, tout !»
Des pleurs convulsifs éclatèrent, mêlés de rires. Au salon, quelque chose tomba d'une table et se brisa. Orloff se faufila hors de son cabinet dans le vestibule, par une autre porte,
et jetant derrière lui des coups d'œil effrayés, mit rapidement son par-dessus, son chapeau, et s'esquiva. Une demi-heure s'écoula, puis une heure. Zenaïda Fiodorovna pleurait toujours. Je songeais qu'elle n'avait ni père ni mère, personne au monde, qu'elle vivait ici entre un homme qui la détestait et Pauline qui la volait. Et combien désolante m'a paru son existence. Sans trop savoir ce que je faisais, j'entrais dans le salon pour la voir. Elle, ce modèle de beauté fine et délicate, elle souffrait comme une malade abîmée sur une chaise longue, cachant sa figure, elle frissonnait de tout son corps. « Madame, ne désire-t-elle pas que j'aille chercher un médecin ?» lui demandai-je doucement. « Non, ce n'est rien, » me répondit-elle en me regardant de ses beaux yeux éplorés. « J'ai un peu mal à la tête, ça ne sera rien, merci. » Je me retirai. Le soir, elle écrivit une lettre et m'envoya tantôt chez Piekarski, tantôt chez Grousine, tantôt chez Kukushkin, avec l'ordre de rejoindre Orlov, coûte que coûte, et de la lui remettre. Et chaque fois que je la lui rapportais, elle m'accablait de reproches, me suppliait, me glissait de l'argent dans la main, agissant comme sous l'empire de la fièvre chaude. La nuit, elle ne dormit point. Elle demeura tout le temps dans le salon à monologuer. Le lendemain, Orlov rentra pour le dîner. Ils se réconcilièrent. Le jeudi suivant, Orlov se plaignit à ses amis de l'existence intolérable qu'il menait maintenant. « Mais c'est pas une vie, cela, c'est un supplice. Des larmes, des sanglots, des considérations philosophiques, des cris, des prières, des pardons, et au-delà. Au total, je l'ai plus de chez moi. Je suis à la torture et je la tourmente, elle aussi, continuellement. Et dire que cela pourrait se prolonger encore un mois ou deux. « M'explique-toi donc avec elle, » dit Piekarski. « Mais je l'ai déjà essayé, il n'y a pas moyen. On peut dire hardiment n'importe quelle vérité à un être sérieux qui réfléchit. Mais là, j'ai affaire à une femme qui n'a ni volonté, ni caractère, ni logique. Je ne supporte pas les pleurs, moi, ils me désarment. Quand elle pleure, je suis prêt à lui jurer un amour éternel et à pleurer moi-même avec elle. » Piekarski ne comprenait pas. Il gratta, pensif, son vaste front, puis répondit « Écoute-moi, loue donc pour elle un appartement à part. C'est tellement simple. Mais c'est pas l'appartement, c'est moi qu'elle veut. Oh, combien inutiles tous ces conseils !» s'écria Orlov avec un soupir. J'entends force discours et des avis et des conseils, mais je n'entrevois guère d'issue à ma situation. En vérité, je suis un coupable innocent. Je tiens un emploi que je n'ai jamais ambitionné. Toute ma vie, j'ai repoussé le rôle de héros. Toute ma vie, j'ai abhorré les romans de Tourguenieff. Et voici que, c'est comme un fait exprès, elle m'oblige à jouer les héros de romans. J'ai beau lui donner ma parole d'honneur que je ne suis pas du tout un héros, j'ai beau lui en fournir les preuves les plus irréfutables, elle ne me croit pas. Pourquoi? Je me le demande. Aurais-je par hasard quelque chose d'héroïque réellement dans ma physionomie? Et vous devriez vous faire encore envoyer en mission dans quelque province lointaine, lui suggéra Kukushkin en riant. Que voulez-vous, en effet, une ex-moyen? 8 jours après, Orlov annonçait à Zinaïda Fiodorovna qu'il était de nouveau attaché à la personne d'un sénateur en tournée d'inspection. Le soir même, il s'en allait avec ses valises chez Piekarski. Chapitre 11. Devant moi, dans l'embrasure de la porte, se tenait un vieil homme. Il était enveloppé dans une pelisse qui retombait jusqu'à terre et coiffé d'un bonnet de castor. « Est-ce que Georges Ivanitch est là ? »
s'interrogea-t-il. Je crus d'abord que c'était un usurier, un des créanciers de Grouzine, qui venait quelquefois chez Orloff toucher de petites sommes pour le compte du personnage. Mais quand il eut pénétré dans l'antichambre et dégrafé sa pelisse, je vis ses lèvres pincées en un pli caractéristique et ses épais sourcils que les photographies m'avaient rendus familiers. Je vis aussi deux rangées de plaques sur un habit d'uniforme. Et je reconnus le visiteur. C'était le père de mon maître, c'était le célèbre homme d'État. Je lui répondis que Georges Ivanich n'était pas là. Le vieillard serra fortement ses lèvres et réfléchit pendant quelques secondes en détournant la tête et en montrant son profil sec et édenté. « Bon, je vais laisser un mot pour lui, dit-il. Conduis-moi. » Il ôta ses caoutchoucs, mais garda sa longue et lourde pelisse. Il passa dans le cabinet et s'assit devant le bureau. Avant de prendre la plume, il réfléchit encore environ 3 minutes en appliquant sa main en visière devant ses yeux, comme pour les protéger contre le soleil, ainsi que le faisait son fils quand il était de mauvaise humeur. Il avait une figure mélancolique et méditative, avec cette expression résignée que j'observais seulement sur le visage des personnes vieilles et dévotes. J'étais debout derrière lui, considérant son crâne chauve et sa nuque, et je me rendais compte, clair comme le jour, que ce vieillard chétif et malade était maintenant en mon pouvoir. Mon ennemi et moi, nous étions seuls dans l'appartement. Il me suffisait de faire un petit effort physique, puis d'arracher la montre du vieillard pour simuler un vol et de me sauver enfin par l'escalier de service. J'obtenais du coup infiniment plus que je n'avais pu espérer en me plaçant comme valet de chambre. Et je me répétais qu'une occasion aussi heureuse ne se renouvelerait peut-être pas probablement jamais plus. Mais, au lieu d'agir, je me bornais à examiner avec une indifférence complète tantôt le crâne chauve du vieil homme, tantôt ses fourrures. Je réfléchissais tranquillement au rapport qui pouvait exister entre son fils et lui, et je me disais que les hommes gâtés par la richesse et par le pouvoir ne devaient pas avoir envie de mourir. « Il y a longtemps que tu es au service de mon fils ?» me demanda-t-il en traçant de grosses lettres sur le papier. « Un peu plus de 2 mois, Excellence. » Il finit d'écrire et se leva. J'avais encore le temps. Je m'exhortais, je m'objurguais à moi-même, crispant les poings, cherchant à exprimer de mon âme ne fût-ce qu'une goutte de la haine que je ressentais naguère. Je me rappelais quel ennemi passionné, obstiné, infatigable, j'étais naguère pour cet homme. Mais il est difficile d'enflammer une allumette en la frottant contre une pierre effritée. Cette vieille figure mélancolique et l'éclat froid de ses plaques ne m'inspiraient que des pensées étriquées, banales, inutiles, sur la fragilité des choses terrestres, sur l'imminence de la mort. « Adieu, mon ami, » dit le vieillard en remettant son bonnet, et il s'éloigna. Il ne pouvait plus y avoir aucun doute. Un changement s'était opéré en moi. J'étais devenu un autre homme. Cependant, pour contrôler encore cette impression, je me plongeais dans mes souvenirs. Mais aussitôt, j'éprouvais un sentiment d'anxiété, comme lorsqu'on s'aventure dans un coin sombre et humide. Je me rappelais mes camarades, mes relations, et ma première idée fut que je rougirais et que je me troublerais terriblement si je rencontrais quelqu'un d'entre eux. Mais qui étais-je maintenant? À quoi devais-je me résoudre? Qu'avais-je à faire désormais? Pourquoi vivais-je? Mes idées se brouillaient, je ne distinguais nettement qu'un point, c'est qu'il me fallait aussitôt plier bagages et déguerpir. Avant la visite du vieillard, mon rôle de laquais pouvait avoir un sens.
Désormais, il était ridicule. Des larmes tombaient de mes yeux dans ma valise béante. Une tristesse intolérable m'envahit et une folle envie de vivre. Je voulais embrasser et englober dans ma courte vie tout ce qui est accessible à l'homme. J'avais un violent désir à la fois de parler, de lire et de frapper des coups de marteau dans une grande usine et de faire le quart sur un navire et de labourer la terre. La perspective Nevski m'attirait, et aussi la campagne, et aussi la mer, et tout ce que mon imagination pouvait seule atteindre. Zenaïda Fyodorovna rentra. Je me précipitai pour lui ouvrir, et c'est avec une tendresse particulière que je l'aidai à se débarrasser de son manteau. C'était la dernière fois. Nous eûmes encore deux visites au cours de la journée. Le soir, assez tard, où faisait déjà presque nuit, se présenta inopinément Grousine, qui venait chercher pour Orlov je ne sais quel papier. Il ouvrit un tiroir du bureau, y prit les pièces dont il avait besoin, et en fit un rouleau qu'il me pria de poser dans le vestibule à côté de son bonnet. Puis il s'en fut rejoindre Zenaïda Fyodorovna. Celle-ci était au salon, étendue sur un sofa, les bras repliés sous la tête. Il y avait presque une semaine qu'Orlov était parti pour la tournée d'inspection, et personne ne savait quand il serait de retour. Mais elle n'expédiait plus de télégrammes et n'en espérait plus. Elle n'avait pas l'air de remarquer Pauline, qui était toujours là. Pour tout m'être égal, disais-je, sur sa figure impassible et très pâle. Maintenant, comme Orlov, elle s'entêtait à se sentir malheureuse. Par caprice et dépit contre elle-même et contre tout le monde, elle passait des journées entières sur le sofa, immobile, ne souhaitant en attendant plus rien que de mauvais. Sans doute, elle se représentait le retour d'Orlov et les querelles inévitables, et son indifférence croissante envers elle, ses trahisons, la rupture. Et ces images douloureuses lui causaient peut-être quelque plaisir. Mais qu'aurait-elle dit si, tout à coup, elle avait connu la vérité? « Ma commère, » fit Grousine en s'inclinant devant elle et en lui baisant la main, « je vous aime beaucoup, ma commère, vous êtes si bonne. Et Georges, il est en mission, il est parti, le coquin. » Il s'assit en soupirant et pressa tendrement la main de Zenaïda Fyodorovna. « Permettez-moi donc, ma colombe, de rester un moment auprès de vous, » poursuivit-il. « J'ai guère envie de retourner chez moi, il est encore de trop bonne heure pour me rendre chez les Bischoff. C'est aujourd'hui la fête de leur petite Catherine. Elle est très gentille, cette fillette. » Je lui servis du thé et un carafon d'eau-de-vie. Il but le thé lentement, à contre-cœur, et me rendant la tasse, il me demanda timidement. « N'auriez-vous pas, mon ami, quelque chose, enfin de quoi simplement encrasser la croûte? J'ai pas encore dîné. » Il n'y avait rien à la maison. Je m'en fus au restaurant, je lui rapportais un dîner quelconque. « À votre santé, ma colombe !» dit-il à Zenaïda Fyodorovna, en avalant un verre d'eau de vie. « Ma petite, votre filleule vous envoie le bonjour. Beau fillette, elle est un peu scrofuleuse. Oh, les enfants !» fit-il avec un soupir. « C'est égal, vous avez beau dire, il est très agréable d'être père. » Georges ignore ce sentiment, il ne comprend pas. » Il but encore un verre. Maigre, pâle, la poitrine protégée par une serviette qui avait sur lui l'air d'une bavette, il mangeait avidement et, relevant les sourcils, jetait des coups d'œil furtifs, tantôt sur Zenaïda Fyodorovna, tantôt sur moi, comme un petit garçon qui a peur d'être pris en faute. Il semblait tout prêt à fondre en larmes si je lui avais refusé du rôti et de la gelée. Après avoir assouvi sa faim, il s'égaya et se mit à raconter en riant une histoire sur la famille Birchhoff. Mais voyant que son récit n'intéressait aucunement Zinaïda Fédorovna, il se tut. Et soudain, ce fut l'ennui. Ils étaient assis dans le salon, éclairés par une seule lampe, et ils se taisaient tous les deux. Lui avait honte de mentir. Quant à la jeune femme, elle avait quelque chose à lui demander, mais ne se décidait pas. Une demi-heure environ s'écoula de la sorte. Gouzine tira sa montre.
« Ah ben, il serait temps que je me trotte. »«
Non, demeurez encore, nous causerons. »
Un nouveau silence. Il s'assit au piano et plaqua un accord. Puis il se mit à jouer et à chanter.
« Que me réserve le jour qui vient ?»
Mais, s'interrompant, suivant son habitude, il se dressa et secoua la tête.
« Jouez-moi quelque chose, compère, » dit Zinaïda Fiodorovna.
« Mais qu'est-ce que je pourrais vous jouer ? » fit-il en haussant les épaules. « J'ai tout oublié, il y a si longtemps que je néglige mon piano. »
Les yeux au plafond, comme pour se ressouvenir, il joua avec un sentiment admirable deux morceaux de Tchaïkovski. Oui, avec quelle âme, avec quelle chaleur! Sa figure était celle de tous les jours, ni intelligente ni bête. Et c'était pour moi un miracle, en vérité, qu'un homme habitué à vivre dans un milieu si abject fût capable d'un sentiment si haut et si pur. Une rougeur monta aux joues de la jeune femme qui se mit à marcher dans le salon.
« Attendez, ma commère, je vais peut-être me rappeler un autre morceau que j'ai entendu jouer sur le violoncelle, » dit Gouzine.
Timidement d'abord et avec hésitation, cherchant ses notes, mais ensuite librement et avec sûreté, il attaqua le chant du cygne de Saint-Saëns. Puis il répéta le morceau.
« N'est-ce pas que c'est bien ? » fit-il.
La jeune femme, de plus en plus émue, s'arrêta près de lui.
« Compère, répondez-moi franchement, mon ami. Que pensez-vous de moi ?»«
Que voulez-vous que je vous dise ? » répliqua-t-il en relevant les sourcils. « Je vous aime beaucoup, et je ne pense de vous que du bien, uniquement du bien. » Si vous désirez connaître mon avis en général sur la question qui vous intéresse, continua-t-il en se frottant les manches près du coude et en se renfrognant, eh bien, ma chère, suivre les élans de son cœur, cela ne procure pas toujours le bonheur aux braves gens. Pour vivre indépendant et heureux, il faut, je crois, ne pas se dissimuler que la vie est rude et implacable dans son conservatisme. Et lui faire la réponse qu'elle mérite, c'est-à-dire se montrer non moins rude et implacable dans ses tendances à la liberté. Voilà mon opinion.
Oui, mais ce n'est pas pour moi, cela, fit Zinaïda Fiodorovna en souriant avec tristesse. Je suis déjà lasse, compère, tellement lasse que je ne me remuerai plus un doigt pour mon salut.
Prenez le voile, ma commère.
Il avait dit cela par manière de plaisanterie, mais ses paroles firent briller des larmes dans les yeux de Zinaïda Fédorovna, et puis dans ses propres yeux.
« Eh bien, » reprit-il en s'essuyant les paupières, « voilà longtemps que je vous importune. Allez, au revoir, petite commère, au revoir, ma chère amie. Que Dieu vous donne la santé. »
Il lui baisa les deux mains après les avoir affectueusement serrées, et promit de revenir sans faute à un de ses jours. En enfilant dans l'antichambre les manches de son pardessus, semblable à un paletot d'enfant, il fouilla longuement dans ses poches pour m'offrir un pourboire, mais ne trouva rien.
« Bonsoir, mon ami » soupira-t-il.
Et il s'en fut. Je n'oublierai jamais l'impression que cet homme laissa derrière lui. Zinaïda Fédorovna
continuait à marcher de long en large, encore toute bouleversée. Qu'elle se remua, qu'elle secoua sa torpeur, c'était déjà bien. Je voulais en profiter pour lui parler sincèrement, quitte à m'en aller ensuite. Mais à peine avais-je refermé la porte sur Grousine que la sonnette retentit. C'était Koukouchkine. « Georges Ivanitch est là ?» dit-il. « Il est de retour ?»« Comment, pas encore ? Oh, que c'est dommage !»« Je vais dans ce cas baiser la main à la maîtresse de séance et je repartirai. »« Zilaïla, Fiedorovna » cria-t-il. « Je désirais baiser votre petite main. Excusez une visite aussi tardive. » Il resta au salon peu de temps, une dizaine de minutes au plus. Mais il me semblait déjà qu'il était là depuis une éternité et qu'il ne s'en irait jamais. Je mordais mes lèvres de dépit et de colère et déjà même je détestais Zenaïda Fiedorovna. Mais pourquoi ne le congédiait-il pas? Grommelai-je, bien que, selon de toute évidence, la compagnie de Koukrouchkine lui agréa fort peu. Tandis que je lui tendais sa pelisse, il me demanda, histoire de me témoigner une bienveillance particulière, comment diable je pouvais vivre sans femme. « Ben, je crois seulement que tu perds pas ton temps, » conclut-il en riant, « et tu dois sûrement faire l'amour avec Pauline. Polisson, va !» Malgré mon expérience de la vie, que je connaissais mal les hommes à cette époque, et peut-être m'exagérais-je les détails insignifiants, peut-être ne remarquais-je pas les points essentiels. Je crus deviner ce soir-là que cet animal de Koukouchkine ne faisait pas ses yi-yi et ne me flattait pas pour rien. Peut-être, en ma qualité de laquais, irais-je dans tous les offices et dans toutes les cuisines du quartier raconter qu'il venait chez nous le soir en l'absence d'Orlov et restait près de Zenaïda Fiedorovna jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Et lorsque mes cancans seraient parvenus aux oreilles de ses amis, il les menacerait de son petit doigt en laissant les yeux d'un air confus. Et lui-même, pensais-je encore en examinant sa face mielleuse, n'aurait-il pas un certain air dès ce soir en jouant aux cartes et ne laisserait-il pas tomber comme par mégarde, quelques propos autorisant à croire qu'il avait déjà soufflé à Orlov Zenaïda Fiedorovna. Cette haine qui m'avait tellement fait défaut dans la matinée, lors de la visite du vieil Orlov, maintenant elle s'emparait de moi. Koukouchkine nous avait enfin délivrés de sa présence, et moi, en écoutant du seuil le bruit de ses galoches en cuir décroître dans l'escalier, j'avais une forte envie de lui jeter en manière d'adieu un gros juron. Je me maîtrisais cependant, mais lorsque je n'entendis plus ses pas, je revins dans le vestibule et, sans trop savoir ce que je faisais, je saisis le rouleau de papier oublié par Gousine, puis je me précipitai comme un fou au dehors. Sans par-dessus et nu-tête, je m'élançais dans la rue. Il ne faisait pas froid, mais le vent soufflait et la neige tourbillonnait à larges flocons. « Excellence !» m'écriai-je en atteignant Koukouchkine. « Excellence !» Il s'arrêta, prenant un réverbère et fit volte-face, me dévisageant avec perplexité. « Excellence !» répétai-je à bout de souffle. « Excellence !» Et ne trouvant rien d'autre à lui dire, je le frappai de nouveau du rouleau par 2 fois en travers de la figure. Sans comprendre, sans même avoir l'air étonné, si grande fut sa stupéfaction, il s'adossa contre le réverbère et se protégea la figure de ses mains. À cet instant passait un officier. Il vit que je battais un homme. Il se borna d'ailleurs à nous considérer tous les deux avec un peu de surprise, après quoi il poursuivit son chemin. Alors j'eus honte, et je retournai en courant à la maison.